Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Belinda Bosuma.
Toujours pas de précision sur la date de la tenue de la réunion des ministres de la Défense de l'EAC, réunion qui devait se tenir aujourd'hui à Goma. Objectif, évaluer le mandat de cette force qui a expiré depuis le 31 mars dernier. Dans tous les cas, les acteurs régionaux vont se retrouver à assurer devant la presse le porte-parole du gouvernement congolais. Le PNUD lance aujourd'hui à Kinshasa la première édition du concours des jeunes sur différents projets de développement de leur milieu, initiative mise en place par le PNUD pour encadrer les jeunes volontaires dans le volet développement local. Pour en parler, nous recevons Serge Kusinza, responsable du laboratoire d'accélération du PNUD en RDC. Madame, Messieurs, bonjour. La République démocratique du Congo souhaite une discussion franche avec l'EAC sur le mandat de la force régionale qui a expiré depuis le 31 mars dernier. La rencontre des ministres de la Défense des pays membres de la communauté des États d'Afrique de l'Est, qui devait se tenir ce mercredi à Goma, allait se pencher sur l'évaluation du mandat de cette force. Au niveau de la province, rien n'a filtré jusqu'ici autour de la tenue effective de cette rencontre. S'exprimant à ce sujet le lundi lors de sa rencontre à Goma, avec la presse, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais a indiqué qu'il ne faut pas faire des fixations sur les dates, selon Patrick Mouyaya. Dans tous les cas, les acteurs régionaux vont se retrouver. On l'écoute.
Cette réunion-là devra discuter de l'avenir de la force régionale. Parce qu'il y a évidemment deux points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord dans la manière dont les choses ont fonctionné. Et vous savez que comme nous sommes dans un processus sensible, la discussion que nous avons avec la force régionale, c'est aussi de nous assurer que de manière progressive, au fur et à mesure qu'il se retire, nous soyons en mesure de retourner d'abord les administrateurs de territoire. Vous savez que nous sommes sous état de siège et donc c'est des militaires. La discussion avec la force régionale, elle sera évidemment une discussion de vérité. Vous avez vu récemment qu'à Kinshasa, le chef d'état-major général de l'armée ougandaise est arrivé parce qu'il y a des besoins, par exemple, pour ce qui concerne l'Ouganda, d'avoir une clarification sur l'attitude à tenir. On attend de voir, parce que vous savez que depuis que ce processus a commencé, nous restons sceptiques parce que nous connaissons les acteurs. Quoi qu'il en soit, on sera obligé de nous retrouver. Donc il ne faut pas faire de fixation sur les dates parce que la problématique est connue et l'urgence de se réunir pour discuter à propos l'est aussi.
Et puis, sachez que la RDC compte 252 groupes armés locaux et 14 groupes armés étrangers. C'est le résultat des états des lieux effectués dans les 5 provinces de l'Est du pays par le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et sociale PDDRCS au Nord et Sud Kivu, en Ituri, au Tanganyika et au Maniema. Ces chiffres ont été révélés hier à Kinshasa par le coordonnateur national de ce programme devant la presse. Tommy Tamboué demande à tous les Congolais qui ont pris les armes à ces démobilisés en suivant l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour que la paix revienne sur l'ensemble du pays. Les propos de Tommy Tamboué ont été recueillis par Richard Junior Kamunga.
Sur base des états des lieux et des études qui ont été menées par notre cellule d'études et documentation et à la suite des rapports également qui ont été validés dans les 5 provinces, jusqu'au 27 mars 2020, la province de l'Ituri dispose de 20 groupes armés. Le Nord Kivu, 64 groupes armés. Le Sud Kivu, 136 groupes armés. Le Maniema, 20. Et Tanganyika, 19. Il y en a aussi les groupes armés étrangers. Mais pour nous, le travail qui a été fait était d'identifier ces groupes armés et connaître également la cause qui est à la base de la prise des armes. Et ceci nous a amené à la cartographie des conflits par les territoires et par pays. Nous avons identifié à peu près 8 conflits qui sont récurrents dans les 5 provinces. Il y a le conflit des limites entre groupements. Il y a le conflit entre les parcs nationaux et les villages et les groupements. Il y a le conflit de succession de pouvoirs coutumiers. Il y a le conflit des terres ou conflits fonciers. Il y a le conflit minier, les conflits administratifs, les conflits environnementaux. Et enfin, il y a le conflit tribaux ou interethniques.
Je vous l'ai dit dans les titres, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD lance ce mercredi à Kinshasa la première édition de la compétition dénommée SDG Action Awards RDC. Il s'agit du concours des jeunes sur différents projets de développement de leur milieu à travers le pays et les meilleurs projets recevront des moyens pour la mise en œuvre. Cette compétition rentre dans le cadre de l'initiative Géraude, entendez, jeune rapporteur des objectifs du développement durable, initiative mise en place par le PNUD pour encadrer les jeunes volontaires dans le volet développement local. Serge Kusinza, responsable du laboratoire d'accélération du PNUD RDC, explique au micro de Grâce Hamzati.
La compétition concerne principalement les Géraudes. À l'échelle du pays, nous avons plus ou moins 1500 Géraudes qui sont déjà inscrits. Nous avons commencé cette initiative à Goma. Par la suite, nous l'avons activé la province du Congo central, la province du Tanganyika, la province du Kasaï central et la province de Kinshasa, ce qui fait 5 provinces. Ces jeunes-là, c'est eux qui vont proposer des solutions selon certaines catégories qui sont arrêtées. Et ils vont compétir et il y aura des jurys qui vont sélectionner les meilleurs projets à fort potentiel. Et de ces meilleurs projets, il y aura 2 projets par province qui seront arrêtés comme étant les meilleurs et qui seront accompagnés par des incubateurs pour la mise en œuvre de ces projets-là. Donc les jeunes proposent les projets, les meilleurs seront plébiscités et on va leur donner un petit financement qui sera exécuté en collaboration avec des incubateurs, des structures d'accompagnement pour aussi leur apprendre le métier de développement. C'est des jeunes qui ont peut-être des idées que nous voyons à fort impact, mais ils ont aussi besoin des compétences pour savoir comment on planifie un projet, comment on suit un projet, comment on exécute un projet, quelles sont les stratégies de mise en œuvre. Ils ont besoin d'être accompagnés.
Dans l'actualité aussi, 6,1 millions de personnes sur 26,4 millions en situation d'insécurité alimentaire en RDC ont bénéficié d'une assistance alimentaire et nutritionnelle vitale en 2022. C'est ce que révèle le rapport annuel pays du Programme alimentaire mondial PAM-RDC. Ce rapport a été présenté hier à Kinshasa au cours d'un café de presse. Selon ce rapport, le PAM a consacré la majeure partie de ses opérations à la distribution des vivres et argent pour sauver des vies et contribuer à éviter des niveaux de vie catastrophiques. On écoute à ce sujet Natacha Nadadzim, directrice adjointe du PAM-RDC, au micro de Jeff Opela.
Ça ne couvre pas tous les besoins des populations en insécurité alimentaire parce qu'on continue dans ce contexte difficile, complexe, à avoir des défis. À l'Est, c'est surtout l'insécurité. Mais en général, on souffre des problèmes d'accès physique et de manque de route. Je pense que, ensemble avec nos partenaires, on essaie de trouver des solutions et on essaie de continuer d'appuyer d'une manière efficace les populations. Mais je suis sûre que la communauté humanitaire ici va faire mieux pour garder l'attention du monde sur les besoins en RDC.
Rendons-nous dans la province du Maniema. Les commerçants de Kindu en partance vers Kongolo, Kalemie et Lubumbashi par le train de la SNCC sont bloqués à Samba avec leurs marchandises constituées essentiellement des produits agricoles. Selon ces commerçants, c'est depuis près de 4 mois qu'ils sont bloqués là avec leurs 30 wagons attendant les locomotives de la SNCC qui, selon eux, ne transportent que de la cassitérite. Ils plaident pour l'implication rapide des autorités à tous les niveaux. Suivez un extrait de leur SOS lu par Zahira Missi, propos recueillis par Florence Kiza.
Nous, les commerçants de Samba, nous sommes bloqués pendant 3 à 4 mois. Nous avons au moins 30 wagons de produits agricoles comme maïs, manioc, le riz, arachide et huile de palme. Nous sommes inquiétés avec SNCC. Nous tous, nous sommes les clients, mais toutes les locomotives qui passent ici à Samba transportent toujours les castérites. L'SNCC dit que la priorité, c'est les castérites. Nous demandons le gouvernement, est-ce que les peuples congolais vont manger les castérites? Ces 30 wagons commencent à être abîmés. C'est pourquoi nous venons auprès du gouvernement qu'il nous aide à dire au DTRP Kalemi qu'il arrange son travail pour qu'il ne soit pas à la hauteur de la souffrance de la population congolaise.
Parlons politique à présent. Le mouvement de libération du Congo MLC et ses partis politiques alliés montent des stratégies pour les élections de décembre 2023. Pour ce faire, les partis politiques alliés ont signé hier la charte constitutive d'une plateforme politique dénommée Alliance des partis alliés au MLC en sigle APA-MLC. La cérémonie s'est déroulée au siège national de ce parti cher à Jean-Pierre Bemba ici à Kinshasa. Le compte rendu de Jacques-Yves Molima.
C'est un échantillon d'au moins 20 présidents et secrétaires généraux des partis politiques, membres de ces regroupements politiques, qui ont apposé leur signature à la charte. L'un d'eux, Madame Odette Babandoa, de l'Union des Patriotes Républicains, est revenue sur leur engagement.
Déterminée à gagner les futures élections massivement et en soutenant sans faille les candidats présidents de la République portés par APA et MLC, avons décidé ce 18 avril à approuver la présente charte constitutive de notre regroupement et sur laquelle nous apposons nos signatures.
À l'occasion, le secrétaire général du MLC, Fidel Babala, a souligné l'objectif commun de cette plateforme.
Cette nouvelle synergie que nous mettons en place devra nous permettre de peaufiner des stratégies communes à travers notamment l'élaboration d'une vision commune afin de conquérir le pouvoir dans les cadres de notre appartenance à l'Union sacrée de la nation.
Notons que ces regroupements politiques comptent près d'une centaine de partis politiques agréés en RDC.
Dans l'actualité aussi, la plénière de l'Assemblée nationale a déclaré hier irrécevable la proposition portant procédure pénale et l'a envoyée à la commission PAJ pour toilettage et enrichissement. Au cours de la plénière présidée par le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, André Mbata, l'initiateur de cette proposition de loi a expliqué que la nouvelle modification du code de procédure pénale vise l'exemption de tous les frais de justice en faveur des vulnérables et marginalisés. Cette proposition de modification du code de procédure pénale vise d'une part l'amélioration de l'accès à la justice, qui reste un réel défi en RDC, et d'autre part la projection légale des groupes sociaux vulnérables, ajoute Juvenal Munubo. Il est au micro de Michel Kifindangoy.
Ma proposition de loi vise en fait la modification du code de procédure pénale dans le but de consacrer à travers la loi une dispense totale du paiement des frais en faveur des victimes de violences sexuelles, de témoins qui interviennent dans le procès des violences sexuelles, en faveur de veuves et orphelins abandonnés, de personnes qui vivent avec handicap de manière permanente et en faveur également des personnes de troisième âge abandonnées par leur progéniture. L'objectif donc de la loi, c'est d'améliorer l'accès à la justice au Congo. Ça vise également la protection des groupes vulnérables, parce que la pratique nous renseigne que c'est difficile pour ces personnes d'ester en justice, c'est-à-dire de demander qu'elles soient rétablies dans leurs droits. Il faut améliorer la législation, parce que c'est une législation qui date de 1959, c'est le décret du roi souverain, le roi des Belges. La première innovation, c'est que les victimes des violences sexuelles ne vont plus payer des frais de justice, tout comme les personnes vivant avec handicap. Je veux que pour toutes ces personnes, qu'on ne leur exige plus le paiement des frais de justice devant les cours et tribunaux.
Comme dit précédemment, cette proposition vise à modifier et compléter le code de procédure pénale du 6 août 1959, vieux texte de plus de 60 ans selon certains juristes. Ce code mérite d'être révisé pour l'adapter aux nouvelles réalités du pays. À l'occasion de la rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle en octobre 2022 au Palais du Peuple, les professionnels des droits sont revenus sur la nécessité de révisiter ce texte de loi. Reste maintenant à savoir si ce projet va réellement rencontrer leurs préoccupations. Explication Jeff Ngoy.
Le souhait de l'Ordre national des avocats est de voir ce projet corriger notamment certaines dispositions se rapportant à l'assistance judiciaire. D'après le bâtonnier national Michel Chebelé, lors de la rentrée judiciaire d'octobre 2022, l'article 123, par exemple, dispose que si la partie qui doit consigner les frais est indigente, ces frais sont avancés en tout ou en partie par le trésor public. L'indigence est constatée par le juge ou par le président de la juridiction devant laquelle l'action est ou doit être intentée. Le magistrat détermine les limites dans lesquelles les frais sont avancés par le trésor.
La question essentielle et cruciale de l'assistance judiciaire d'un conseil pro deo dans le cadre de l'aide légale. Le souhait le plus ardent de l'Ordre national des avocats est de voir le texte final qui en sortira être mieux élaboré, avec une sensible amélioration susceptible de relever les défis de l'accès des plus démunis à une aide légale efficace et efficiente.
Cette proposition de loi loi permettrait, selon le bâtonnier, de combler le cadre juridique actuel, spécialement en ce qui concerne le procès Prodeo, dont le caractère lacunaire n'est plus à démontrer, avait-il fait savoir.
Actualité internationale. L'armée soudanaise et les forces de soutien rapide qui s'affrontent depuis 4 jours pour le contrôle du Soudan ont convenu hier d'un cessez-le-feu de 24 heures selon les médias arabes. Mais malgré l'entrée en vigueur de ce cessez-le-feu, des coups de feu ont retenti à Khartoum, la capitale. Sachez que ces combats depuis 4 jours ont fait près de 200 morts. C'est la fin de ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo, Jean-Noël Mokondo à la mise en onde. Merci de l'avoir suivi.